Sur Canal B, du 13 au 17 avril à 12h15, 8h15 en rediffusion, découvrez « Celles qui nous entourent », une série de podcasts issus d'un projet de jumelage sur 3 années, en partenariat avec le centre hospitalier Guillaume Régnier, le groupe Odyssée et le Grand Cordel MJC. Depuis septembre 2023, le groupe Odyssée est allé à la rencontre des résidentes et résidents des unités de soins du centre hospitalier Guillaume Régnier, recueillant des récits pluriels, intimes et sensibles. À la suite de chaque épisode, Nina prolonge l'aventure et vous emmène dans les coulisses du projet à la découverte de celles et ceux qui l'ont fait vivre, artistes mais aussi soignantes. C'est lui qui nous entoure, à écouter sur Canal B.
C'est le qui nous entoure. Première année, se rencontrer. Groupe Odyssée, compagnie de théâtre, est en résidence de création de 2023 à 2026, dans le cadre d'un partenariat avec le Grand Cordel MJC et le centre hospitalier Guillaume Régnier. Un projet transversal autour de la mémoire et des liens entre patientes et personnel de l'hôpital. Avec Romain Brosseau, Cécile Kerel, Flora Diguet, Marine Higère, Marie Thomas. À la maison d'accueil spécialisée du Placiver de Thorigné-Fouillard.
Débrief de la galette du Placiver.
Du 13 janvier.
Où il fait approximativement moins 2 degrés. Alors, qu'est-ce qu'on a retenu? Qu'est-ce que tu as retenu, Marie?
Moi, j'ai retenu les 3 premières personnes qu'on a rencontrées, les résidents. Quoi. C'est Marie-Annick.
Ouais, Marie-Annick, Cédric.
Cédric. Louise, quand même. Hein. Louise qui demandait sa maman.
Ouais. Ouais.
Donc un grand gaillard.
De 50 ans, quoi.
Ouais, on va dire 50 ans. Allez, 45. Et qui vient très proche d'Alexandra et qui demande sa maman.
Là, c'est la première journée qu'on passe ici. Enfin, même pas, c'est les premières heures. Et donc, c'est quand même dur de savoir quel comportement adopter. Et donc, j'étais pas malheureuse qu'il y ait Alexandra à côté qui pose des cadres et aussi demande, par exemple, à Cédric de reculer ou Louise qui était très proche de nous. Parce que, en fait, on sait pas quel. On ne sait pas encore quel comportement adopter face à ces moments qui sont un peu surprenants, quoi.
On ne sait pas ce qui est acceptable, pas acceptable, finalement, les codes sociaux, la gênance ou la réaction de l'autre est imprévisible pour nous, vu qu'on ne sait pas.
Ouais, carrément. Et moi, ce que je retiens, un autre truc, c'est l'une des aides-soignantes, j'ai oublié son nom, je ne sais plus laquelle, parlait du fait qu'il y avait tout le temps du bruit ici et qu'il y avait des personnes qui donc répétaient sans cesse les mêmes bruits ou répétaient le fait de frapper tout le temps à une porte ou voilà, et qu'il y avait quelque chose de très rythmique dans les maisons finalement. Et ça, on a pu le voir quand même quand la directrice a fait son discours où en effet, il y a le silence qui se fait dans la salle. Mais en fait, il n'y a pas du tout le silence qui se fait dans la salle. Il y a plein de personnes qui continuent à émettre des sons divers et variés.
Et la réaction des parents aussi, qui effectivement sont à dire « Ah là, tu te comportes bien quand même hein. » Qui, eux, ont leur manière d'être à l'aise et de connaître leur enfant, leur sœur, leur frère, peu importe. Les parents sont là.
Ouais. Ouais. Et dans l'ensemble, quand même, eh bien... Je suis contente qu'on vienne voir là, on revient le 22 mars, donc on se fasse une visite. C'est très dur d'imaginer pour le moment ce qu'on peut faire, mais c'est plutôt plaisant, c'est peut-être pas le bon terme, mais de se dire que là on rentre dans un monde où j'ai vraiment l'impression qu'on sait rien, mais que par contre il y a plein de personnes qui savent comment faire ici. Voilà, on dit qu'Alexandra par exemple, elle sait très bien, j'ai l'impression qu'elle a une manière de se comporter avec les résidents et résidentes qui a l'air, qui donne envie, enfin... Voilà, ça c'est plutôt enthousiasmant, je trouve.
Halloween,
bah ça c'est pas.
Là.
Tiens,
mais vous êtes là.
Halloween, c'est.
Alors
là. Halloween.
Mais. Mais les cheveux qui poussent.
Les fêtes.
Les fêtes.
Mais quel tout ce que vous avez là, vous.
Là, c'est la fête du printemps.
Comment ça va? C'est la fête.
Parfois, bah, Madeleine, elle a des coups de mou, voilà, elle n'est pas bien, elle parle de son papa, et puis on va à la toilette, et sous la douche, et bah, parce qu'elle, elle adore chanter, on chante une ou deux chansons, et puis tout d'un coup, elle se met à rire, elle se met à chanter, et voilà, on est parti d'un moment où ça allait pas trop, et au bout de 5 minutes, elle éclate de rire, et ça va bien, et...
Après, si vous voulez refaire le tour, après les cartes après-midi,
Les résidents n'ont pas, pour la plupart d'entre eux, n'ont pas la communication verbale. Mais tout le corps parlait. Enfin voilà, tu t'apprends différemment en fait à communiquer avec eux et à comprendre eux leurs besoins. Ici non, il faut s'adapter autrement par picto, aussi la non verbale, hein, les gestes, le regard, le comportement.
Aujourd'hui, on est là. D'accord.
Ça danse.
Le travail, c'est un marathon. Enfin, et peut-être d'autant plus avec nos résidents. Mais je pense que si on veut durer dans le temps, ben je pense qu'il faut savoir s'économiser. Parce que c'est pas un long fleuve tranquille. Au début de ma carrière, j'aurais donné de mon temps, peut-être même de mon argent. J'étais jamais à une heure près. On faisait des activités. Moi, je ramenais des trucs de la maison pour faire des activités. Mais en fait, ça peut aller qu'un temps, en fait. Tu finis par t'épuiser. C'est pas non plus aider l'institution de faire des heures sup, par exemple. Mais quand tout le monde fait un quart d'heure, plus une demi-heure, plus un quart d'heure, plus... Ben, en fait, il faut un poste supplémentaire, là.
D'accord, attendez.
Oui, faut attendre.
Et tu vous la trace. Il vous l'eau.
Ah, ça, c'est le Tour de France.
Sur la vélo, on en a parlé.
Oui, parce que j'adore ce que je fais et je, au bout de 15 ans, j'apprends toujours, je découvre toujours. Et les résidents, certains sont là depuis déjà moins de 15 ans et donc depuis bien plus longtemps que ça. Il y a des nouveaux résidents, donc c'est incroyable la richesse qu'ils nous apportent et en fait, j'en découvre toujours. Donc tant que j'en découvre toujours, je resterai là.
Ah bah pour travailler ici, enfin je pense qu'il faut être passionné par notre travail et puis ne pas être choqué partout ou de tout. Mais quand même se poser des questions. Mais oui, et puis le faire avec passion, en fait. Croire en ce qu'on fait, croire dans nos résidents. Voilà, ils nous apportent tellement, et j'ose espérer qu'on arrive à leur en apporter presque autant. Donc, ça se traduit dans leur sourire ou dans leur câlin, pour ceux qui sont démonstratifs.
Mais oui. Ça fait, c'est toujours une grande fierté.
J'ai deux gamins.
Je mets son derrière le plat.
Tu veux m'avoir?
Oui, Eric, merci.
Trouver un ailleurs pour certains résidents. Je ne sais pas sous quelle forme, hein. J'en sais rien du tout, mais on a des résidents qui sont là 365 jours par an. Ils partent 8 jours en vacances dans l'année. C'est vrai que je pense que pour certains, de pouvoir partir un week-end, ça se fait, mais pas pour beaucoup. Donc partir un week-end par mois en famille d'accueil ou... Enfin, qu'ils puissent bénéficier d'un accompagnement un peu plus familial.
Ouais, on rigole beaucoup avec eux. Parfois, grâce à eux, sans qu'ils le sachent, mais ouais. Oui, on rigole. Et il faut d'ailleurs, il faut rigoler. Enfin, ce que je disais tout à l'heure, il faut éviter d'être choqué partout. Après, j'entends aussi que certaines situations peuvent être choquantes, mais bon, encore une fois, ils nous apportent tellement qu'ils peuvent bien avoir des gestes ou des comportements bizarres. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui est bizarre? Est-ce que c'est pas nos comportements ou nos attitudes qui peuvent être aussi bizarres? Donc, non, franchement, ouais, beaucoup de rire.
Nous croisons beaucoup de résidentes, résidents, et une des choses bassement choquantes pour moi, et ça me choque d'être perturbée pour si peu, c'est la salive que beaucoup de résidents ne maîtrisent pas, qui coule ou qui s'agglutine, petit filet ou couvrant tout le menton, tout le haut du vêtement, mouchoir qui y essuie régulièrement ou pas. Les bouches ne sont pas polissées, pas civilisées, elles sont hors de contrôle. Oui, la bave, donc, dont il faut faire abstraction lorsqu'on veut entrer en communication avec un ou une résidente. J'avais déjà eu cette sensation le jour de la galette des rois en janvier. Et je vois bien qu'on n'en parle pas avec les accompagnants, car c'est un sujet tellement anecdotique en soi. On n'en parle pas. Et on est mal à l'aise devant des adultes qui bavent. Alors que si c'était des nez d'enfants qui coulaient, ou des mains d'enfants qui poissaient, des bavouilles... On pourrait en parler, en rire, mais là, ça dérange. Ce qui me marque, c'est que les résidents et les résidentes qu'on croise, on ne nous les présente jamais en fonction de leur pathologie ou de leur handicap, mais juste comme si de rien n'était, comme des gens, quoi, des personnes uniques. Et moi, je les trouve toutes et tous obéissants, raisonnables. Quand ils dépassent une limite dans leurs gestes, dans leur posture par exemple, et qu'un ou une éducatrice les reprend, il n'y a jamais de difficulté. Les résidentes obéissent. Sans doute que c'est parce que les éducateurs savent comment s'adresser à eux. Et sans doute aussi les médicaments y sont pour quelque chose.
Ah, elle a cassé son lacet.
Nous croisons Ludo. Ludo qui nous accompagne pendant toute notre déambulation dans la maison, il est collé à Romain. Dans la salle à manger, l'équipe lui demande de sortir à un moment. Il se jette par terre de dépit. On le traîne par les bras pour le sortir. Il pique souvent de la nourriture, paraît-il. Il y a Nicole, qui vient sans cesse réclamer ses fers. Depuis qu'elle est petite, apparemment, elle aime les fers souples, les petites tiges en métal là, qui peuvent servir à attacher une clôture, par exemple. Elle en a toute une collection, elle en fait des bouquets, des tiges de cintre ou des fers en tout genre. Richie, lui, il accepte uniquement le tchèque pour tout contact physique. Et tous les deux ont fait un baby-foot. Daniel est un des plus jeunes. Il est assis sur une table dehors, sur la terrasse. Il nous dit qu'il veut nous draguer, Cécile et moi. Louis aime bien trier, ranger. Nous jouons avec des puzzles, des caplas, et il oublie sa maman l'espace d'un instant. Parce que Louis, il cherche sa maman. Depuis des années, sans doute. Il doit avoir une bonne cinquantaine d'années. Il s'approche de moi et me demande « Mamaï, elle est où ?» Puis il nous explique qu'elle lui tire l'oreille, qu'il a fait une tache sur son pull. Il montre son pull, il tire son oreille et il pleure de manière assez théâtrale, assez fausse. Et il mime même une larme qui coule sous son œil. Il y a un bruit qui me marque, c'est le grincement de dents régulier, continu sur tout l'après-midi dans la cafette d'une résidente, assise dans son coin sur une chaise. Elle grince des dents très fort en poussant des mugissements. Je ne suis pas capable de rester à proximité de ce bruit-là. Une sensation étrange. L'impression que les frontières de mon corps se floutent, l'envie de me laver les mains, exactement comme quand on ne sait plus ce qu'on a touché, mais qu'on ne se sent pas comme d'habitude. Je me sens envahie, en fait. Les limites sociales ne sont plus respectées, les codes de la normalité, dont on pensait se foutre d'ailleurs, ont volé en éclats. Et donc il faut déchiffrer sans cesse, il faut se réadapter. Il n'y a plus d'interprétation immédiate possible, c'est épuisant. Ça doit être ça qu'ils ressentent eux-mêmes. Ça doit être ça, être inadapté. Je fais une pause sur la terrasse dehors. Je suis sur la terrasse et je pense à Louis. Je ne sais pas quoi lui répondre. Qu'est-ce que je devrais lui répondre quand il cherche sa mère? Lui mentir et lui dire qu'elle va arriver pour lui faire plaisir, le rassurer, pour lui permettre peut-être de penser à autre chose? Ou bien lui dire la vérité, qu'elle n'est pas là, que non, elle ne viendra pas. Mais sa vérité est sans doute encore ailleurs.
Donc oui, du coup, vous aviez fait tout le tour
On avait fait un tour un peu rapide, hein, mais sinon, ce bâtiment-là,
ouais.
On était allé, on avait vu la salle de relaxation.
Ah non, c'était une salle de relaxation, là.
Ça avec...
Il y avait un toit qui pendait la dernière fois.
Oui, tout à fait.
Oui. Ah.
C'est réparé.
C'est réparé.
C'est une bonne nouvelle.
On a une balnéothérapie, donc on a une piscine aussi.
Oui, c'est fini.
Ah oui, c'est vrai, vous avez été à la balnéo hier.
Ouais.
Vous avez été avec qui? Ah bah, il faut
voir.
Avec Gilda et Alexandra, je crois.
Je t'ouvre.
Ça va être fermé.
Ah bah oui.
Ah bah oui. Faut avoir le pass ici.
Tout est fermé.
Journal de bord de Cécile du 22 mars 2024 lors de la visite au Place Hiver. Louis cherche sa maman. Marie-Annick montre sa culotte. Louis s'est bien marré à l'atelier musique. Yvan trouve qu'un bébé c'est sacré. Élise me tire trop fort par le bras et Daniel me demande comment on fait les bébés. Un type, la cinquantaine, mais finalement peut-être beaucoup moins, se roule au sol, ramasse de l'herbe et la mange. Et avec Marine, Romain, Flora et Marie, on chante amoureuse de Véronique Sanson. C'est le temps des cartes au pub. La salle se remplit. Chacun, chacune vient chercher son jus et son snack. On est supposé discuter avec les résidents et résidentes, mais je n'y arrive plus.
Je reste dehors au soleil avec Yvan, qui, crémé comme un enfant, a le visage blanc et gras. Je suis bien sur le banc. On parle bébé. Il répète les mêmes phrases et ça me va. J'ai besoin de temps. Je digère la matinée. Plus tôt aujourd'hui, Steve, accompagnant, nous a fait visiter la maison Bambi. Des maisons, il y en a plein, 12 peut-être. C'est un village de Schtroumpf. Des maisons à un seul étage, avec plein d'habitants et d'habitantes. De 15 à 21. 21 personnes dans une maison, c'est beaucoup trop, nous dit-on. Mais en vrai, est-ce que 15 aussi, ce n'est pas beaucoup trop ? Moi, déjà en coloc à 8, je vivrais l'enfer. Dans Bambi, 15 personnes seulement. La maison est vétuste. Dès qu'on entre, ça prend à la gorge. C'est moche et ça sent. On appelle ça maison, mais c'est un L. Deux grands couloirs remplis de portes. Des portes de chambre, des portes de sanitaire, de cuisine, toutes fermées à clé. Steve nous dit. Des fois, on ferme par sécurité et des fois par habitude. Et puis, il faut éviter que les résidents et résidentes s'agressent entre eux. Nous, c'est-à-dire Marine, Flora et moi, nous ne voyons aucune agressivité. Sur le canapé en plastique défoncé, face à la télé branchée sur Oui-Oui, sans le volume, une résidente silencieuse attend. Elle se gratte avec une bouteille. Une heure plus tard, quand nous partirons, ce sera toujours Oui-Oui et toujours la bouteille. Dans le couloir, les résidents et résidentes passent et nous, on visite. Marie-Annick, résidente, nous suit. Steve la considère avec attention, lui donne un rôle. Tu nous montres la maison, Marie-Annick ? Elle n'a pas l'air méchante, mais qu'en sait-on ? Quand elle m'accroche le bras, sans réelle violence, mais avec force et insistance, je pense au fœtus que j'ai dans le ventre. Je me méfie. J'aimerais me laisser porter, mais pas du tout. J'y pense tout le temps à ce gros ventre que l'un des résidents pourrait vouloir frapper, juste comme ça, pour voir. J'y pense d'autant plus qu'il n'y a pas longtemps, j'ai fait un test, comme beaucoup de femmes enceintes, pour savoir si le bébé est porteur de la trisomie 21. Si ça avait été le cas, qu'aurais-je fait ? J'ai eu la chance de ne pas avoir à me poser la question. Mais en regardant Marie-Annick, Louis et les autres, elle me revient comme un boomerang. Est-ce qu'il y a des vies qui méritent d'être vécues ? Et puis les autres ? Je suis mal à l'aise. Les résidents et résidentes ont un jour été des fœtus pour lesquels, comme moi en ce moment, des parents ont fondé des espoirs ordinaires et heureux. Des couches-culottes à changer, et puis des premiers pas, des mots, des sourires, le premier vélo, et tout un tas de premières fois fantasmées. Ici, nombreux sont les résidents qui ne parlent pas. Il n'y a jamais eu de premiers mots, de phrases. Et s'il y a une évolution possible, elle se fait à la marge, pas de rémission. La vie sera celle-là pour longtemps. Alors mon ventre me pose malgré moi cette question. Qui pour dire qui vit et qui meurt ? Ou plutôt, quelle vie mérite d'être vécue et quelle vie doit être effacée, tuée dans l'œuf ?
Je vais voir si la porte est ouverte ou pas. Oula, là, 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 ça ne pilote pas droit. Salut, David.
La musique, c'est là.
Merci.
La musique, c'est là. On est arrivé.
On a même la porte de la terre.
Moi, je me souviens une fois, alors avec des adultes, on avait fait une sortie en bateau, donc il fallait installer les résidents. Donc, oui, ça prend un peu de place. Et un vieux qui nous avait dit... Oui, enfin bon, là, on perd du temps. De toute façon, ça sert à rien de les sortir. Hein. Les choses ont quand même un peu évolué en 20 ans, mais il y a quand même encore un gros travail à faire sur l'acceptation. Je reste convaincue que si globalement les gens prenaient le temps de découvrir nos résidents d'époque, les nôtres au plastique vert, hein, les résidents de manière générale... Je pense que ça rendrait les gens un peu meilleurs.
C'était Celle qui nous entoure, première année, se rencontrer. Un projet de groupe Odyssée. Réalisation Marie Niger. Coordination du projet, Romain Brosseau. Avec Flora Diguet et Marie Thomas, actrice. Cécile Querel, autrice. Merci à Alexandra, Mélanie, Madeleine, Louis, Lucas, Eric, Ludo, Daniel, Louis, Élise, Gaëtan, Marianic, Yvan, Steve, Patrick, Claire, Anita, Michel, Richie, Pierrick, Nathalie, Nicole, Anne-Carmen, Jérôme, Philippe, Isabelle, Yann, Alexandre et toutes et tous. Et merci à l'équipe du Grand Cordel MJC et aux équipes du Centre Hospitalier Guillaume Régnier. Podcast réalisé dans le cadre de la première année de jumelage entre Groupe Odyssée, le Grand Cordel et le Centre Hospitalier.
D'entendre une des restitutions sonores du projet Celle qui nous entoure, un projet artistique de 3 années en partenariat avec le Centre Hospitalier Guillaume Régnier, la compagnie de théâtre Le Groupe Odyssée et le Grand Cordel MJC. Et pour accompagner ces immersions sonores, ces journaux de bord et vous partager un petit bout des coulisses de cette réalisation, Canal B reçoit en plateau après chaque épisode une personne qui a participé, cette fois-ci de très près, au projet. Et aujourd'hui, nous avons encore une fois avec nous
Romain Brosseau-Geneste, acteur metteur en scène et coordinateur artistique du projet.
Merci Romain d'être encore avec nous sur Canal B aujourd'hui. On vient d'entendre un journal de bord d'ateliers artistiques qui ont eu lieu au sein de la maison d'accueil spécialisée du Placiver de Thorigné-Fouillard. Alors pour commencer, pour qu'on comprenne bien de quoi on parle, dans cette maison d'accueil spécialisée, qui est-ce qui est accueilli ?
Alors c'est des personnes qui, pour la grande majorité, sont polyhandicapées. Des personnes qui ont besoin d'être en résidence pour être accompagnées, des personnes qui ont de la famille ou pas ou plus. Et c'est la grande différence avec les autres unités, c'est que ce sont des personnes qui vivent H24 dans ces unités.
Et en termes de profil, ce sont des femmes, des hommes, tout âge confondu ?
Tout âge confondu, oui, on a croisé des jeunes personnes. Alors c'est plutôt des majeurs. Et puis ça va jusqu'à, alors je crois que ça va jusqu'à 50, je voudrais pas dire de bêtises, mais je pense que c'est 55 ans. Et ensuite, ces personnes-là vont à l'EHPAD.
Alors, entre ce que vous avez souhaité faire pour ces ateliers-là et ce qui s'est produit à la fin, il y avait peut-être eu un décalage. Vous dites dans le podcast, au départ, c'est très dur d'imaginer pour le moment ce qu'on peut faire. On ne sait rien, mais il y a plein de personnes qui savent comment faire ici. Quand vous allez en atelier avec des personnes de cette maison d'accueil spécialisée, est-ce que vous y allez avec un objectif précis, un but précis, duquel vous ne démordez pas, ou est-ce que vous devez vous adapter ?
On s'adapte carrément. En effet, on savait que cet endroit était... On nous a beaucoup dit d'aller là-bas. Parce que c'est un endroit un peu hors du temps, avec des équipes formidables. Et 10% des résidents résidentes peuvent échanger verbalement. Les autres, non. Donc, tu parlais d'atelier, on n'a pas fait d'atelier. Là, tout de suite, ce qui s'est dessiné, c'est qu'on allait plutôt en immersion, qu'on allait découvrir ces endroits, s'immerger. Donc là, on est dans le pub avec tout le monde, quoi. Et puis même la deuxième année, on a participé aux Olympiades, un événement, quoi, de cet endroit. Et en fait, là, le récit s'articule vraiment sur notre immersion dans cette masse où on raconte plutôt ce qui s'y passe et on dresse le portrait de ce lieu-là. Mais c'est sûr qu'on n'a pas pu créer d'atelier, vraiment. On a mis en place d'autres choses, des entretiens avec les équipes soignantes, des visites et puis des participations, comme je disais. Mais c'est sûr qu'on n'a pas... c'était impossible de mettre en place des ateliers, en tout cas avec nous, nos outils à nous.
Et donc au moment où vous arrivez pour la première fois là-bas, vous y arrivez vraiment dans l'expectative en se disant on va voir ce qu'on peut faire.
On va voir ce qu'on peut faire et puis surtout il faut déjà y aller, il faut déjà s'acclimater, on va dire. Puisque c'est assez clair dans le podcast, La première fois qu'on arrive, alors en plus les filles sont allées en hiver, et puis je crois qu'on est tous allés ensuite, c'était encore bien l'hiver. Et donc c'est un autre univers, quoi. C'est toutes ces maisons, ces différentes maisons, certaines très vétustes, d'autres ont été refaites récemment. Mais c'est vrai que les corps qui s'y baladent, les sons, c'est ce qui se rapprocherait plus du fantasme qu'on a un peu de la psychiatrie. Moi, il y a une chose que j'ai appris, c'est que il y a des choses qui, moi, m'ont profondément choqué, parce que je vis dans ma normalité, dans ma société, où les gens se tiennent debout, sont habillés. Et en fait, j'étais choqué au début de ça, et puis j'ai compris que, je pense par exemple à cette personne qu'on a vue ramper par terre, en train de manger de l'herbe. En fait, j'ai appris que, via les soignantes et toute l'équipe, c'est la meilleure chose à faire que de laisser cette personne faire. Si tu essayes de la faire se mettre debout, si tu essayes de lui dire de ne pas manger de l'herbe, là, ça crée une situation de stress. Et c'est pas de la maltraitance, quoi. C'est vraiment chacun s'adapte en fonction des profils. Et donc, c'est tout un univers où, effectivement, on est un peu désarçonné parce qu'on se dit... Waouh, comment prendre soin de ces personnes-là avec leur pathologie et là où elles en sont.
Dans le podcast, vous dites aussi « je me sens envahie ». C'est Marie au micro qui donne cette impression-là. Je vais un peu vous taquiner, mais est-ce que vous vous êtes découvert plus sensible que vous ne le pensiez aux conventions sociales finalement ?
Bien sûr. Ouais. Et puis on savait que c'était vraiment l'endroit où on allait être perturbé. C'était important à chaque fois qu'on y allait de se faire un petit débrief ensemble parce que tu peux pas ensuite repartir. C'est pas violent, mais c'est puissant. Et effectivement, parfois c'est très beau, mais il n'y a pas la convention sociale de la distance entre nos corps, de comment est-ce que je te parle très près, comment est-ce que je te touche. Il n'y a pas cette distance-là. Alors après, on commence à être un peu aguerri et on sait comment déjouer, on sait comment garder une certaine distance. Cécile en parle dans le podcast, il y a une fois où elle y allait, où elle était enceinte. Donc là, il y a encore autre chose qui se joue. Effectivement, au début, c'est désarçonnant. Puis petit à petit, on s'y fait. Et puis en fait, ça dépend des gens aussi. Il y a des gens avec qui le feeling, juste parce qu'on est un homme, parce qu'on est une femme, parce qu'on fait telle taille, ça ne le fait pas, on ne le sent pas. Donc dans ce cas, c'est pas la peine d'insister. Et puis, il y a eu des très belles rencontres. Moi, j'ai rencontré Michel, qui m'a fait visiter sa chambre, toutes ses collections, qui fait de l'humour. Ça, c'est une des personnes avec qui c'était le plus simple, entre guillemets, d'échanger. Donc, c'est des rencontres très fortes.
Ce qu'on entend dans ce que vous nous dites, Romain, et puis au fur et à mesure des podcasts, c'est que c'est essentiel d'aller vers ces personnes-là qui ne sont pas dans la vie de société de tous les jours, en tout cas qu'on ne voit pas assez, qu'on n'a pas envie de voir la plupart du temps. Comment on fait pour que les initiatives comme la vôtre, elles ne soient pas qu'un coup d'épée dans l'eau ? Comment on pourrait faire pour que ces personnes-là aient plus leur place dans la vie de tous les jours et qu'on y soit habitué aussi et que nous, on n'ait plus peur de quelqu'un qui bave un peu ou qui nous parle trop proche ?
Il faut de la thune, il faut de l'argent. J'exagère un peu, mais c'est vrai, il faut de l'argent. Là, par exemple, au Place Hiver, il n'y a pas d'argent de leur côté. Ils n'ont pas pu participer au projet financièrement. Donc, c'était très touché que nous, on vienne, qu'on soit curieux et qu'on ait envie de revenir aussi sur 2 ans. Il faut continuer en fait à créer des liens, à se rencontrer, je sais qu'il y a beaucoup de choses qui se font, par exemple artistiques au Place Hiver, mais souvent c'est les soignants en fait qui, parce que un tel fait de la guitare ou une telle maîtrise un peu le chant, il y a des choses qui se font, mais des artistes au Place Hiver, je crois qu'il n'y en avait jamais eu. Après on a passé très peu de temps là-bas parce que, comme je le disais, on peut pas. C'est compliqué de faire quelque chose au long cours. Et si on veut faire quelque chose au long cours, il faut de l'argent, parce que c'est notre métier. Je pense qu'effectivement, il faut continuer à dialoguer. Et puis, il faut aussi que des personnes soient déléguées à ça. La plupart du temps, c'est c'est plutôt des animatrices quoi, qui ont pris le projet à bras-le-corps et qui ont fait le suivi, ce qui n'est pas toujours évident, parce qu'elles ont déjà beaucoup de travail dans des conditions pas toujours simples. Donc, je pense qu'il faut continuer, effectivement, l'idée de ce podcast et puis aussi de raconter, en fait, ce qui s'y passe. C'est aussi pour faire tomber un peu des frontières, quoi. Et je sais que par exemple à Torigné-Fouillard, il y a des gens que je connais qui vivent ou qui ont grandi à Torigné-Fouillard, le Placiver est un espèce d'endroit comme ça, fantomatique, perdu dans la forêt. Bon bah non, ça fait partie de la vie, ça fait partie de la société. Et la psychiatrie, on peut parler de la prison aussi, et même les EHPAD aussi. Bon bah voilà, comment est-ce qu'on vit avec toutes ces personnes-là? C'est hyper important de faire société ensemble et d'y penser.
Les soignants, soignantes que vous avez rencontrés là-bas, on n'a pas la chance d'en avoir une avec nous ou un avec nous aujourd'hui, mais est-ce que vous pouvez nous dire, elles, quelles étaient, je dis elles parce que c'était en majorité des femmes qui étaient au micro, comment elles se sentaient? Il y en a une qui dit notamment, il faut s'économiser, mais qui dit quand même qu'elle adore son métier. Alors si on essaye de ne pas parler de il manque de l'argent, il manque des ressources, comment vous avez vu ce lien entre ces soignantes-là et les patients qui étaient là-bas?
Bah ça c'est sublime en fait. C'est assez beau de voir comment ces personnes-là arrivent à... Bah justement, non pas... par exemple, on n'a jamais parlé de leur maladie. On ne sait pas. Alors, nous, on était vraiment avec les animatrices. Donc, qui n'ont pas ce... Évidemment, elles sont au courant, mais en tout cas, ce n'est pas par ce biais-là qu'elles prennent en charge ou qu'elles accueillent les résidents et les résidentes. Il y a une grande proximité, il y a beaucoup d'humour. Elles les connaissent très bien, c'est-à-dire qu'elles savent aussi qu'est-ce qui va leur faire du bien. À un moment, s'il y a une personne qui est en crise, elles savent par où passer. Et ça, je trouve... ouais, je pense que c'est très prenant. Alexandra le dit très bien. Au début, elle aurait pu donner beaucoup de temps, beaucoup d'argent pour ça. Je pense qu'effectivement, pour être dans la durée, je pense que dans le social, globalement, c'est quand même un milieu qui est très pressurisé. Si on veut tenir, il faut savoir s'économiser.
Vous disiez tout à l'heure, on s'est acclimaté à cet endroit, on a appris à le découvrir. Et les personnes accueillies là-bas, comment est-ce qu'elles se sont acclimatées à vous?
Ah oui, elles se posaient pas trop de questions. C'est-à-dire que nous, on était là, d'un seul coup, il y avait des personnes avec qui avoir un échange. On a pu chanter, on a pu, comme je disais, visiter la chambre. Et Michel nous a montré toutes ses collections. La question se pose pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Là où, pour être honnête, la deuxième année, quand on y retournait, il y a eu moins de présentations. On a été moins présentés, ça a été moins anticipé. Et par exemple, des soignants et des soignantes n'étaient pas méfiants ou méfiantes, mais en tout cas ne comprenaient pas ce qu'on faisait là. Avec les résidents résidentes, il n'y avait pas de problème. Mais c'est plutôt, effectivement, on arrive d'un coup dans un endroit très, comment dire, très balisé, très codifié, et il faut, parce que c'est quand même une question de santé. Mais c'est vrai qu'on n'a jamais eu de soucis, on n'a jamais eu de problème. Au contraire, le contact se faisait très vite, parfois trop vite. C'est plutôt avec les soignants et les soignantes, même juste qu'est-ce que font des artistes ici, vu qu'il n'y en a jamais, d'un coup, qu'est-ce qu'ils viennent faire là? Et effectivement, quel est l'échange? Je sais que, par exemple, pour beaucoup de gens, se dire « Ah oui, ils viennent raconter ce qu'ils ont vu et tout ça », ça peut paraître un peu outrancier ou obscène. On essaie justement de pas du tout tomber là-dedans, mais pour ça, faut beaucoup dialoguer, faut beaucoup échanger, et je reviens un peu sur le même truc, mais faut du temps pour ça. Et de l'organisation, et de la coordination. On l'a fait, et ça s'est plutôt bien passé à chaque fois. Mais c'est vrai que la dernière fois, on a senti qu'il a fallu plus de temps avec certaines personnes parce qu'on arrivait chez elles, en fait. Et on venait perturber un peu l'ordre des choses.
Romain, vous venez de dire qu'il ne faut surtout pas tomber dans l'écueil de créer des clichés. L'écriture des podcasts, cependant, elle est assez fine, assez subtile, même si vous la faites parfois au volant d'une voiture, en mode journal de bord. Est-ce que vous l'avez parfois dit en mode improvisé, ou est-ce qu'il y a eu un vrai travail de réécriture où vous passiez des textes pour éviter justement qu'on tombe dans le cliché parfois?
Ouais, on est hyper vigilant là-dessus. Alors, il y a des choses très... il y a une sélection déjà sur tout ce qu'on a amassé comme matière. Il y a des choses qui sont très sur le vif, effectivement, dans une voiture, juste à la sortie de l'unité ou à la sortie de notre journée, qui sont enregistrées. Et puis, il y a aussi des choses qu'on prend le temps d'écrire. On se pose la question aussi, d'un seul coup, on sort d'une journée au Placiver. Bon, si on laisse un peu déposer, quand on se relit, on se dit, bon, là, j'étais choqué, là, j'étais énervé, là, j'étais un peu... je sais pas quoi. On peut aussi être un peu, je sais pas, un peu bisounours, quoi, sur la vision de la psychiatrie. Ouais, c'est un vrai. Il y a les deux. Il y a en même temps beaucoup d'impromptus et de comment on garde cette chose très vivante. Et puis aussi, oui, un petit travail d'écriture parce que justement, faut être vigilant. On veut. C'est pas qu'on veut pas dire de conneries parce que c'est. On fait pas un documentaire. Mais par contre, on veut que notre impression soit juste.
Alors, le projet « Celle qui nous entoure » ne se résume pas à ces podcasts, ces 5 podcasts qui retracent sous forme de journal de bord vos ateliers et interventions ou immersions dans différentes unités de soins. Il y a eu d'autres, et c'était même la majeure partie de votre projet, d'autres activités, d'autres fils rouges. Et qu'est-ce que c'était ? Est-ce que vous pouvez nous donner 2-3 exemples d'activités que vous avez menées pendant ce projet-là ?
Alors, par exemple, l'idée, quand même, c'est qu'on est une équipe artistique. Et donc, l'axe principal, c'est qu'on est en résidence. On est en immersion pendant 3 ans à la MJC et au CHGR. Et donc, l'objectif principal, c'est de... ça va se clôturer le 18 avril. Là, il y a une sortie de résidence où, en fait, ça va être du plateau, du théâtre, avec... avec des textes, donc ce sera lu, on va aussi mettre en place des formes pour rendre compte de nos 3 années. Il y aura aussi du son, puisque Marine fait partie du projet. Bon voilà, je ne vais pas tout divulguer, mais c'est vrai que c'est l'axe principal. Après, on a pu ponctuellement, dans certaines unités, en deuxième année par exemple, au CSTC, il y a eu une émission de radio en live, une fausse émission de radio, qu'on a écrit ensemble avec les participants et les participantes pour faire théâtre, en tout cas faire un objet artistique et créatif. Donc ça, c'est l'objectif principal. En fait, ça va être un gros taf, là, pendant 15 jours, on est à la MJC, reparcourir toutes ces matières, créer une dramaturgie un peu de ces 3 années. Donc là, ça demande un petit travail de... Donc j'imagine, on va être avec des post-it et puis on va se poser des questions, on va se rappeler aussi des choses, parce que 3 ans, c'est long. Donc on a fait un gros travail d'archivage. Et en fait, c'est au bout de ces 3 ans, qu'est-ce qui en ressort ? Quel a été notre voyage ? Quel est notre récit de ces 3 années ? Avec des points qui se recoupent, avec nous aussi qui avons évolué, qui avons changé. Voilà, ça c'est effectivement l'axe principal qui après, moi je croise les doigts, pourra continuer à vivre. J'imagine un objet un peu protéiforme qui puisse voilà, se rejouer. On évoque un peu des choses sur la fin de l'année, même peut-être au CSGR, il y a un centre culturel qui va être créé, donc j'espère qu'on aura l'occasion d'aller présenter quelque chose là-bas. Je ne veux pas que ça s'arrête, en tout cas, à ces 3 ans.
Vous parliez à l'instant, vous m'avez offert une transition parfaite, des récits qui se sont créés, de votre évolution sur le sujet. Vous, personnellement, quel est le récit que vous avez réussi à vous créer ou que vous avez envie d'avoir en tête à la presque fin de ces 3 années de résidence ?
Si on prend le départ, moi je n'avais jamais mis les pieds en psychiatrie et la psychiatrie était très loin de moi, ma vie, de mon vécu. C'est vrai que là, à la fin des 3 ans, ce que je sais, c'est que je peux avoir une appétence, j'aurais pu travailler dans le social par exemple, je pense que c'est quelque chose que j'aurais pu faire. J'ai eu une appétence pour ça aussi via le médium artistique. Et je pense que vraiment, les artistes, c'est pas un pouvoir, quoi, mais on a une capacité, en tout cas, d'offrir aux personnes qui ont des troubles psychiatriques, on a une capacité de formuler des choses, une capacité d'expression, une capacité de faire émerger un peu des facettes de certaines personnalités qui se rapproche du soin. Alors attention, on n'est surtout pas soignant, là on reste à notre place d'artiste, mais moi c'est un peu ce qui me meut depuis 3 ans, et je pense que ça va pas s'arrêter là. J'ai envie de continuer un peu, de continuer à fouiller. Je verrai mal comment, après 3 années d'immersion et de présence à l'hôpital psychiatrique, je pense pas que je vais refermer le livre et puis ne plus jamais y retoucher. Je pense que ça peut marquer aussi, ça peut marquer une carrière, ou en tout cas des désirs, une envie d'approfondir, une envie de peut-être faire un vrai spectacle, parce que là on ne peut pas faire un spectacle avec le temps qu'on a, pas un vrai spectacle en tout cas. Voilà, j'ai envie de dire que ça... Et puis des rencontres bouleversantes, et puis ça nous apprend aussi, nous, Voilà, que aussi on pourrait passer par là, alors pas toutes les unités, mais oui, faire un séjour à l'hôpital psychiatrique, ça veut pas dire qu'on est fou ou folle, ça veut dire qu'on a juste besoin, à un moment, de soigner dans un cadre très précis. Donc ça remet aussi en perspective, dans un monde quand même où on parle beaucoup de la santé mentale, mais en même temps, il n'y a pas grand-chose qui est fait pour qu'on soit bien mentalement, c'est quand même compliqué, on est quand même très acculé de toutes parts. Ouais, moi ça m'a ouvert les yeux sur ce milieu et puis sur humainement. Je le dis souvent, il y a beaucoup de fantasmes autour de ça. Or, il y a rien de fantasmatique, c'est juste des gens qui ont leurs troubles à eux, à elles, et qui peuvent être surtout momentanés et puis revenir dans la vie entre guillemets, avec plein de guillemets, la vie normale.
Merci beaucoup Romain d'avoir été avec nous sur Canal B pour parler de ce projet tripartite.
Merci beaucoup.
C'était Celle qui nous entoure, une série sonore consacrée au projet du même nom, porté par le Centre hospitalier Guillaume Régnier, le groupe Odyssée et le Grand Cordel MJC. Un épisode à retrouver sur le site de Canal B.